bien au transversal et je retrouve ce matin pour le deuxième volet de la semaine mon invité Raphaël Bory, co-commissaire de l'exposition que l'on peut voir et découvrir en ce moment au MUCEM, au bâtiment Georges-Henri Rivière, consacré à René Perrot et sous-titré « Mon pauvre cœur est un hibou ». Nous avons vu hier pour quelles raisons, vous nous l'avez expliqué. Alors, quelques mots sur René Perrot, j'y reviens. Fils d'instituteur et petit-fils d'agriculteur, René Perrot a étudié à l'École nationale des arts déco avant de travailler comme affichiste jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Il est antimilitariste convaincu, il dénonce l'absurdité de la guerre à laquelle il participe dans des gravures. Et après la défaite française face à l'Allemagne, il enquête pour le Musée des Arts et Traditions Populaires, comme ce fut le cas pour un certain nombre d'artistes. Et ce qu'on apprend dans cette exposition, c'est que la protection du musée lui évite, comme à d'autres artistes, d'être trop inquiété en raison de ses positions politiques dans ce contexte troublé. Et c'est dans son village natal de Cuse, dans le Doubs et ses environs, qu'il commence son enquête en 42 et 43. 1942-1943, ça paraît si loin. Il la poursuit dans le Cantal en 1944, puis dans les Pyrénées-Orientales en 1945. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette présentation que j'ai tout simplement citée? Mais voilà, je vous laisse en parler. Je vous laisse répondre à cette question.
Écoutez, effectivement, Raphaël Bory. Ce qui est intéressant dans la présentation que vous avez faite pour le travail que René Perrot fait pour le Musée national des arts et traditions populaires pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une période extrêmement complexe, c'est effectivement la manière dont le musée va aussi servir de couverture finalement aux activités d'un certain nombre de personnes qui autrement auraient pu être inquiétées par les autorités, puisque le musée va faire le choix de continuer à travailler pendant la guerre. Le régime de Vichy a un intérêt particulier pour le folklore, pour les arts et traditions populaires, qu'il n'était pas le seul à avoir pendant les années 1930. Le Front populaire également était intéressé par ces thématiques-là, et c'est sous le Front populaire que le musée a été créé. Donc c'est un thème finalement qui était partagé sur l'ensemble de l'échiquier politique, mais le régime de Vichy va en faire une instrumentalisation toute particulière, et Jean-Jean Rivière, le conservateur du musée, va en quelque sorte essayer de se servir de cet intérêt pour utiliser les fonds qu'on pouvait lui donner, notamment pour cette entreprise qui permettait de faire augmenter les connaissances dont on disposait sur le monde rural traditionnel, qui était l'objectif du musée, mais aussi de fournir couverture, protection à ces artistes, à ces architectes, à ces designers. Certains d'entre eux, comme le communiste Jean Amblard, menaient d'ailleurs en parallèle de ces chantiers intellectuels une activité intense de résistant.
Donc, en quelque sorte, un peu une couverture.
Tout à fait.
Tout à fait. Alors Raphaël Bory, on l'a vu, ce qui vous a intéressé dans le travail de cet artiste qui est assez prolifique, il y a de très belles choses, mais à quel moment commence-t-il à s'intéresser à la tapisserie? Est-ce que vous le savez?
Alors justement, les recherches qu'on a conduites dans le cadre de cette exposition, en particulier avec Alice Bernadac, la conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, mais aussi en lien avec la famille de l'artiste, avec sa fille Sylvie et avec son petit-fils Blaise, qui nous ont beaucoup aidés dans la préparation de cette exposition et dans les recherches qu'on a conduites sur le parcours de René Perrot, qui prête aussi des œuvres à l'exposition. On se rend compte qu'en fait, c'est au moment où la guerre se termine, vers 1944-1945, qu'il a ses premiers contacts avec les ateliers de tissage d'Aubusson, à un moment qui est celui qu'on a appelé par la suite celui de renouveau de la tapisserie.
Qui n'est pas fini d'ailleurs, qui se poursuit aujourd'hui.
Et qui est initié à partir du début du XXe siècle par plusieurs figures et qui va être incarné en particulier par Jean Lursa, qui est son représentant le plus connu, disons, mais qui fait partie d'un ensemble d'artistes qui, au même moment, travaillent sur les mêmes sujets de la même manière. On peut citer Dom Robert ou encore Picard Ledoux. Et René Perrot s'inscrit pleinement dans ce mouvement de renouveau de la tapisserie. Et ce renouveau de la tapisserie, ce qui le caractérise, c'est de revenir, en tout cas c'est l'idée qu'ont ces théoriciens, à une tapisserie qui serait conçue véritablement comme un art spécifique, c'est-à-dire qui ne copierait pas simplement des peintures qui seraient mises sous la forme de tapisserie, ce qui était beaucoup le cas des très belles tapisseries, des gobelins avec un tissage extrêmement, extrêmement fin, extrêmement minutieux, mais de revenir à un tissage avec un calibrage de fil beaucoup plus épais, plus grossier finalement, mais en tout cas qui va être tout à fait différent. Et leur idée est de revenir à la tapisserie médiévale, avec une utilisation de l'espace notamment qui va être très différente, en abandonnant complètement toute notion de perspective, en occupant presque l'intégralité de l'espace des tapisseries avec des motifs comme sur ce qu'on appelait les mille fleurs du Moyen-Âge. Et c'est dans ce mouvement véritablement que René Perrot va s'inscrire, d'autant plus qu'on est au moment où il va commencer à faire ce travail de peintre cartonnier pour la tapisserie, dans le contexte de la reconstruction. On a des commandes de l'État qui vont être passées en quantité assez importante pour décorer des institutions publiques, qu'il s'agisse de ministères, qu'il s'agisse de préfectures, qu'il s'agisse d'ambassades. On en a également à la Cour de cassation, on en a qui était à l'Élysée, bref, dans des bâtiments publics un petit peu partout en France et également à l'étranger, et aussi pour un public de particuliers.
C'est ainsi qu'il devient maître cartonnier. Et d'ailleurs, on va écouter, parce que, à vrai dire, c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. La tapisserie, je ne connaissais pas. Aubusson, on connaît, ça devient un nom commun. On dit c'est un Aubusson maintenant. Donc, c'est vraiment un renouveau de la tapisserie aujourd'hui. En revanche, il y a des tas de termes que je ne connaissais pas, en particulier le métier de lissier. Donc on va écouter, on peut trouver des choses sur Internet là-dessus, mais on va écouter un extrait de ce que j'ai trouvé pour y comprendre quelque chose à la tapisserie. On écoute.
La tapisserie d'Aubusson se pratique selon une méthode traditionnelle qui perdure depuis des siècles, montrée ici par Patrick Guillot sur un métier horizontal appelé métier de basse-lisse. L'artisan lissier y tend des fils en coton blanc appelés fils de chêne qui constituent le support de la tapisserie. Chacun d'entre eux est raccordé à une lisse en coton perpendiculaire au métier. Toutes les lisses sont réunies entre elles en deux catégories, les paires et les impaires. Elles sont reliées par tout un système d'attaches et de leviers à deux pédales en bois, appelées marches, actionnées par les pieds du lissier. Ce dispositif permet de séparer la nappe de fil pair et la nappe de fil impair. Pour la trame, le lissier travaille à partir d'échevaux de laine ou de soie qu'il dispose en bobine, puis répartit sur ses navettes en bois, appelées flûtes. Pour passer le fil, il exerce une pression du pied sur l'une des marches. Les deux nappes de chêne se séparent, le lissier les écarte alors d'une main et manie sa flûte de l'autre main en aller et retour avec une rapidité étonnante. Puis il tasse sommairement le fil avec le doigt. Pour parfaire le tassage et assurer la densité du tissage, il utilise également deux outils, le peigne pour les parties étroites et le grattoir pour les parties plus larges. Une tapisserie d'Aubusson se réalise sur l'envers. Le modèle du motif à réaliser est peint sur un support appelé carton. Il est fixé sous le métier à l'aide d'épingles afin de guider le lissier dans la réalisation de chaque détail. Savez-vous comment reconnaître une tapisserie d'Aubusson? Il suffit de la retourner. Sur l'envers, vous verrez les départs et arrêts de fil que le lissier a laissé dépasser.
Donc vous-même, donc on vient d'écouter un extrait de la technique de la tapisserie à l'ancienne, justement, et où l'on découvre aussi dans les différentes vidéos qu'on peut voir sur Internet que le métier à tisser permet de travailler sur un carton. Donc René Perrot lui-même faisait, il imaginait, il créait son carton, c'est-à-dire la peinture de son choix, et ensuite il donnait ça au tissage, c'est bien ça, avec les couleurs. Et ce qui est intéressant, mais vous allez le dire beaucoup mieux que moi, parce que c'est très intéressant, justement, Jean Lursa a créé un système pour comprendre les couleurs. C'est-à-dire que par rapport à un dessin, il va y avoir des chiffres qui correspondent à des couleurs de laine. Voilà, donc je vous laisse en parler, ce sera beaucoup mieux comme ça. Raphaël Bourri, je vous laisse en parler.
Alors c'est tout à fait ça, et on a essayé vraiment de montrer ce processus créatif de la tapisserie dans l'exposition, puisque en fait, on voit comment est-ce que René Perrot va partir au départ d'un dessin extrêmement précis, extrêmement minutieux, avant de le schématiser, de le transformer pour la tapisserie. Et en fait, on a toutes les étapes ensuite de son travail. Il va commencer par réaliser une ébauche, qui est un premier jet, dirons-nous, de ce qu'il pense créer comme tapisserie. Ensuite, on va passer à l'étape...
Pardon, c'est ainsi qu'il est maître cartonnier, c'est bien ça ?
Peintre cartonnier, oui. Donc, tout d'abord l'ébauche, ensuite la maquette, qui est une version assez proche, finalement, de ce à quoi la tapisserie ressemblera par la suite, mais en petit format, qui va être d'ailleurs très souvent quadrillé pour pouvoir lui permettre de l'agrandir par la suite, sous la forme du carton de tapisserie. Et effectivement, René Perrot va lui-même réaliser ses propres cartons de tapisserie. Donc, les cartons sont à l'échelle, ils font la même taille que la tapisserie, et effectivement, ce sont des objets qui sont en noir et blanc, et en fait, la couleur est apposée par un système de numérotation. On le voit quand on regarde Perrot, qui est photographié au travail en train de réaliser ses cartons. Il a accroché à sa ceinture ce qu'on appelle un chapelet, c'est-à-dire un écheveau de laine de différentes couleurs. Chaque laine correspond à un numéro qui va ensuite apposer sur ce carton. Et une fois le carton réalisé, il va effectivement être confié aux lissiers qui vont réaliser le tissage et créer la tapisserie. Mais le fait qu'il réalise lui-même ses cartons, ça lui permet d'avoir un contrôle créatif finalement assez étroit sur le résultat qu'il va obtenir. Et dans l'exposition, on présente en vis-à-vis un beau carton de tapisserie, avec en l'occurrence encore un hibou qui s'appelle la sagesse, avec la tapisserie en regard juste à côté, et on les voit comme en miroir, puisqu'en fait les lissiers travaillaient à l'envers sur la tapisserie, et c'est aussi pour ça qu'on tenait à montrer l'envers de cette tapisserie, pour voir le geste technique, finalement, les nœuds, les morceaux de laine qui pendent. Et on a un double regard de cette manière-là sur ces objets assez fascinants et sur le travail matériel qui est aussi impliqué.
Ce qu'on peut voir est assez magique, surtout quand on ne connaît pas et qu'on découvre le travail du lissier. Il travaille sur un métier à tisser, donc, mais... c'est seulement quand le métier, quand la tapisserie est finie, qu'on retourne la tapisserie, et là apparaît, et c'est ça qui est magistral, c'est là qu'apparaît la tapisserie dans sa splendeur, quoi. Alors qu'au départ, il n'y a que des fils, du coton, un travail. Donc c'est assez fabuleux.
On appelle ça la tombée de métier, d'ailleurs.
La tombée.
Lorsque les derniers fils, justement, vont être coupés et que la tapisserie va pouvoir être déroulée, vue, terminée. Et d'ailleurs, à Aubusson, aujourd'hui, il y a encore régulièrement des tombées de métier, puisque la Cité internationale de la tapisserie continue à produire des tapisseries. Récemment, ils ont fait de grands cycles sur Tolkien, sur Miyazaki.
Tout à fait.
Et les tombées de métier,
c'est passionnant,
sont
d'ailleurs
vraiment des événements publics assez important et assez émouvant.
Alors sur la Cité internationale de la tapisserie, vous pouvez nous en parler, puisqu'elle a été inaugurée il n'y a pas longtemps, en 2016, je crois. C'est un renouveau de la tapisserie. Je vous laisse en parler, parce que ça me paraît quand même important.
Alors, la Cité de la tapisserie, effectivement, elle a été renouvelée elle-même, mais elle prend la suite d'un musée qui se trouvait déjà à Aubusson auparavant. Et d'ailleurs, l'exposition René Perrot, Mon pauvre cœur est un hibou, lorsqu'elle était présentée à Aubusson, l'était dans les anciennes salles du musée, qui est restituée en quelque sorte à la cité pendant l'été, et qui, le reste de l'année, est utilisée par la scène départementale d'art dramatique. Et donc, c'est un très bel espace qui a été vraiment pensé, construit pour accrocher, pour montrer de la tapisserie. Mais effectivement, comme vous le disiez, il y a aussi cette dimension de renouvellement. D'ailleurs, il y a des travaux qui vont bientôt commencer pour agrandir la Cité internationale de la tapisserie, qui est installée dans les anciens locaux de l'École des arts décoratifs d'Aubusson, là où étaient pendant un temps formés les artistes dans ce domaine-là. Et c'est vraiment au cœur, finalement, de tout un écosystème local, avec encore des entreprises, des lycées qui travaillent aux alentours, d'autres qui viennent travailler à la cité pour tisser ces grands programmes qui sont commandés, aussi avec des liens avec le mobilier national. Donc il y a vraiment tout un écosystème autour de la tapisserie à Aubusson et à Felletin.
Les vidéos qu'on peut voir sont très très belles, parce qu'on voit à quel point les lycéens sont passionnés. Et il y a beaucoup de jeunes qui font le renouvellement, puisque avant c'était un métier, c'est un métier dans lequel les gens étaient pendant un certain temps, toute leur vie en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont intéressés et qui sont intégrés dans ces écoles. C'est pas mal. Il faudra aller à Aubusson, parce que j'ai vu des choses qui m'ont dit, qui m'ont fait dire, mais je connais pas, mais il faut y aller.
Et puis après, ça s'inscrit aussi dans le cadre d'un intérêt renouvelé, peut-être chez une partie des jeunes générations, pour l'artisanat, pour ce que l'on peut faire, pour le travail de la main. Et effectivement, pour ça, Aubusson est aussi un conservatoire de ces techniques assez remarquables.
Vous êtes historien de formation. Vous vous étiez intéressé à la tapisserie avant d'être au MUCEM ?
Alors,
pas plus que ça.
Alors, effectivement, j'ai une formation d'historien et d'historien de l'art, plutôt de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, donc une grande période de floraison de la tapisserie. Donc, je m'étais intéressé dans ce cadre-là, mais pas de manière particulièrement détaillée. C'est véritablement en réalisant cette exposition, en allant à Aubusson, que j'ai vraiment compris de manière plus fine et précise ce que c'était que la tapisserie d'hier et d'aujourd'hui.
Vous vous êtes intéressé beaucoup à l'Italie. Alors on va parler un petit peu de vous et de votre parcours. Donc on l'a dit, vous êtes conservateur du patrimoine. Vous êtes également agrégé d'histoire, vous êtes actuellement responsable du pôle croyances et religions au MUCEM. Vos travaux de recherche portent sur l'art italien de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Vous me dites s'il y a une erreur. Hein. Au MUCEM, vous vous êtes particulièrement intéressé au lien entre le folklore et le Moyen-Âge, à l'histoire de l'anthropologie italienne et au rapport entre ethnologie et création artistique. Notamment, vous avez été commissaire de l'exposition Une autre Italie en 2022. Mais pas seulement, il y a eu d'autres expositions au MUCEM dont vous êtes occupé. Et puis d'autres expositions concernant l'Italie aussi. Alors je vous laisse en parler, racontez-nous. Racontez-nous, alors, Raphaël Bory.
Alors effectivement, au MUCEM, j'ai aussi eu l'occasion d'assurer le commissariat d'une exposition qui s'appelait « Savoir-faire textile en Méditerranée », qui était organisée au Centre de conservation et de ressources du MUCEM, qui sont donc ces réserves qui se trouvent à la Belle de Mai. Et là, on a aussi quelque chose, un lien, un fil qui nous relie à la tapisserie et à René Perrault, puisqu'en fait, c'était un projet qui a été co-construit, alors d'abord avec une association qui s'appelle Itinérance, qui travaille sur les savoir-faire textiles en Méditerranée, justement, et avec des élèves de l'École des arts décoratifs à Paris, donc l'école de René Perrault, des élèves en design textile qui ont créé qui ont des pièces à partir des collections du MUCEM, en l'occurrence les collections d'ex voto, donc des collections de nature religieuse dont j'ai la charge. Et donc on a construit ce projet pour justement... Eh bien, on est dans cette même logique de ce que le passé, le patrimoine peut apporter à la création contemporaine, en montrant justement comment est-ce que, à partir aussi bien des objets, mais aussi des idées, des rituels, des pratiques passées que l'on conserve, que l'on documente, comment est-ce que les jeunes créateurs peuvent s'en servir, et ce qu'ils ont fait de manière assez remarquable, que ce soit d'un point de vue formel, en reprenant des objets, des motifs, des techniques, ou d'un point de vue idéal, finalement, en se posant la question. L'ex voto, c'est un objet que l'on donne pour remercier une puissance surnaturelle d'une grâce obtenue, en se posant la question de eux, ce pourquoi ils avaient des remerciements à formuler, qui est-ce qu'ils souhaitaient remercier, et donc ils ont travaillé sur ça.
En tout cas, vous en parlez d'une manière complètement passionnée et passionnante. Je vous l'ai dit, c'est une exposition à la lumière de votre regard qui me donne envie de retourner voir l'exposition. Sur cette exposition, et nous en finirons pour aujourd'hui, et puis on se reverra un de ces jours peut-être. Est-ce qu'il y a dans l'exposition une œuvre particulièrement que vous chérissez?
Alors,
la réponse
réponse serait différente tous les jours, mais peut-être l'œuvre qui ouvre l'exposition, qui s'appelle « Dans un fossé de mon village », qui est une grande tapisserie. Et quand on entend le titre « Dans un fossé de mon village », on ne s'attend pas forcément à quelque chose de très spectaculaire, on s'attend peut-être à quelques mauvaises herbes et un peu d'eau stagnante au fond d'un fossé. Et en réalité, on a une explosion de fleurs, de plantes, d'oiseaux, de papillons qui virevoltent, ouais. Et de couleurs surtout. Et finalement, ça me semble assez caractéristique du regard artistique de René Perrot qui est toujours attentif à la réalité mais qui en même temps va quelque part la transfigurer. Et son regard artistique, justement, c'est véritablement ça, c'est de regarder la réalité. Il reste dans le domaine du figuratif, mais certaines de ses œuvres tendent même vers l'abstraction, tant on a un sens des formes, un sens de la couleur qui sont exceptionnels dans son travail.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir permis de regarder cette exposition qui est au Mucem en ce moment, d'avoir apporté votre regard. Je crois que c'était important, d'autant plus que je vous l'ai dit hors micro quand vous êtes arrivé, on ne trouve pas grand-chose sur Internet, on ne trouve pas grand-chose, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. C'est la seule critique que j'apporterai à cette exposition, mais en tout cas, elle est à voir absolument au Mucem, et c'est jusqu'en mars 2024. Les transversales sont maintenant terminées. Merci de nous avoir suivis, et si vous voulez retrouver cette émission, vous pourrez toujours aller sur le site des transversales, www.les-transversales.fr, ou encore sur le site de Radio JM. Merci encore, Raphaël Bory, et à la prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.